Bonjour, bonjour. Allô, parler. Que Dieu te bénisse. Bienvenue parmi nous. Bonjour Gilles. Bonjour Joanne. Bonjour Pascal. Bonjour Marie-Huguette. Vous êtes plusieurs, mais je ne vois pas tous les noms. Bonjour Manon. Bonjour Rosie. Bonjour à mon père, à ma mère. Ma sœur et mon neveu, s'ils sont là. Bonjour Julie. On est le mercredi 13 juillet. De l'an de grâce 2022, journée ensoleillée, veille de la fête nationale de la mère patrie pour plusieurs d'entre nous. Immaculée, bonjour. Maggie, bonjour. Hermana Flori, Dios me la bendiga. Nathalie, bonjour. Je m'excuse pour mon absence hier. Malheureusement, plusieurs nuits consécutives particulièrement difficiles. Donc hier, j'étais avec de la toux. Encore une fois, ce n'est pas la COVID, c'est les autres petites problématiques que je vous ai déjà expliquées. Donc, je n'étais pas en mesure de parler hier matin. En fait, j'avais les bronches et les poumons qui sifflaient entre les quintes de toux. Marie-Marthe, bonjour. Minutes avant qu'on débute ce matin. Denise Gérard, bonjour. Journée ensoleillée, je crois. J'ai pas vérifié la météo pour aujourd'hui, mais en tout cas ce matin il fait soleil. Hermana Marta Lucia, que Dios me la bendiga. Denise, est-ce que les effets de la COVID s'estompent un peu? Est-ce que ça va mieux? Je sais qu'il y a une semaine ou deux, vous aviez la COVID, donc comment ça se passe pour vous maintenant? S'il y a quelqu'un qui est là et que je n'ai pas nommé, mais s'il vous plaît, écrivez un petit mot dans la zone commentaire juste pour que je puisse vous saluer adéquatement. On va bientôt commencer, mais on a encore quelques instants. Marie-André, bonjour. Je peux comprendre Denise et Gérard. J'ai pas une bronchite dans mon cas, mais la toux vient irriter les bronches et puis les poumons, donc très congestionné au niveau de la poitrine ces jours-ci. Donc vous pourriez m'entendre tousser encore ce matin. Pour l'instant, ça va. Mais il se pourrait que d'ici la fin de la réunion, vous m'entendiez tousser. Bonjour Jude. Je m'excuse pour le bruit ambiant à l'extérieur. Il y a les camions, les tracteurs. Il semble y avoir des moteurs aussi de coupe-bordure ou autre qu'on entend. Et le coq, le fameux coq de l'autre côté de la rue ou de l'autre côté du train qui se fait entendre jour et nuit. Je plains tellement les nouveaux voisins ou les voisins qui ont ce nouveau coq à côté d'eux. Merci Denise, merci Gérard. Jude, est-ce que Caridad est partie? On a prié pour elle dimanche, elle devait aller visiter sa maman pour une période d'un mois. Babette, Andreas, bonjour. Je suppose que du thé, ça peut aider dans certains cas, mais comme moi, c'est pas nécessairement une question de grippe ou autre. C'est plus compliqué que ça, disons. Myriam, Donald, bonjour. Alors, on va prier. Puis on va commencer. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans 2 Timothée au chapitre 4. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous donnes d'être réunis devant nos écrans pour partager ce moment dans ta parole, dans l'étude de ta parole. Nous prions, Seigneur, que celle-ci puisse trouver un terrain approprié, un terrain qui a été préparé, un terrain qui est protégé aussi de tous les oiseaux qui veulent si souvent venir voler, amoindrir la parole que tu nous donnes. Alors en toute chose, Seigneur, sois effectivement, Seigneur, à l'avant-plan. Parle, dis-nous ce que tu désires que nous entendions. Prononce, Seigneur, ces mots que tu désirais prononcer de toute éternité dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres notre entendement, tu ouvres notre pensée à ta parole. Nous déclarons que celle-ci est vraie, que celle-ci est véritable, que celle-ci est parfaite et que celle-ci est la base sur laquelle nous devons construire nos vies. Alors, nous bénissons, Seigneur, cette occasion que tu nous donnes d'être là, à recevoir de toi, à recevoir ce que tu as préparé de toute éternité pour nous. En toute chose, que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. À toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors cette semaine, la thématique veiller à bien s'entourer. Et on reprend les éléments de la prédication, non pas de dimanche qui vient de passer, mais de l'autre avant. Et puis la semaine prochaine, on fera la suite. Donc je lis pour vous dans 2 Timothée au chapitre 4, les versets 6 à 22. De Timothée 4, 6 à 22. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens ou plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophée malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que la grâce soit avec ton esprit, que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors la thématique de cette semaine, savoir ou veiller à bien s'entourer. Dans ce passage, on voit trois groupes de personnes, même quatre pourrait-on dire. On voit un groupe qui s'oppose à Paul directement, avec Alexandre le forgeron. On voit quelqu'un qui marchait aux côtés de Paul et qui l'abandonne. Et le terme qui est utilisé ici est très profond dans le grec originel. On nous parle d'un déserteur, et là c'est Démas. Puis, on nous parle essentiellement de deux groupes de personnes. Et cette semaine, on s'arrête sur l'un d'entre eux. On nous parle du groupe de personnes que Paul a envoyé dans différentes villes et qui représente Paul auprès des différentes églises qui ont été démarrées et qui sont sous la supervision de Paul. Et de surcroît à cela, il nous parle de ce groupe qu'on étudie cette semaine, des personnes qui sont autour de lui. Paul va dire que lors de ses premières audiences devant la cour à Rome, personne n'était là pour le défendre, mais que Dieu a utilisé ces circonstances difficiles et complexes, voire même jusqu'à un certain point, des circonstances qui pourraient lui sembler injustes, pour malgré tout lui permettre de prêcher l'Évangile et que les païens, les gens qui ne sont pas juifs, puissent entendre le message de l'Évangile. Mais il nous dit qu'il y a quand même des gens qui l'entourent. Au moins sept personnes. Timothée, qu'on a vu hier, Luc, Marc, qu'on appelle Jean-Marc, Eubulus, Pudens, Linus, Claudia, et un huitième personnage qu'on fera lorsqu'on arrivera au terme de notre étude cette semaine. Chacune de ces personnes, le nom qui est utilisé va être une source d'enseignement pour nous. Hier, on a vu Timothée, la personne qui honore Dieu. Et combien il est important pour nous aujourd'hui, non seulement de savoir s'entourer de personnes qui honorent Dieu, mais d'être nous-mêmes une personne qui honore Dieu auprès de notre entourage. Cette semaine, on pourrait prendre ces enseignements, tout comme la semaine prochaine, et se dire, bon, ben, je vais exclure tous ceux qui ne correspondent pas aux définitions que le pasteur va nous donner cette semaine. C'est simplet comme raisonnement, je dirais. C'est simplet et incomplet. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on pourrait couper de notre entourage toutes ces personnes qui sont moins agréables, toutes ces personnes qui ne cadrent pas pleinement avec l'ensemble des définitions. Mais on devrait se poser aussi la question, est-ce que les gens, si on a une telle attitude, est-ce que les gens ne devraient pas aussi couper notre présence d'auprès d'eux? Est-ce qu'on est assez Timothée? Est-ce qu'on est assez Luc? Est-ce qu'on est assez Marc, Bulus, Pudence, Linus, Claudia pour demeurer auprès des autres? Alors cette semaine, c'est non seulement savoir s'entourer, mais savoir être dans le bon état, avec la bonne façon d'être, avec la bonne pensée, avec le bon caractère, pour être une bénédiction pour notre entourage. Lorsqu'on a parlé de Timothée, qui veut dire celui qui honore Dieu, on donnait comme pensée de savoir mettre Dieu en priorité dans notre vie. Faire en sorte que ce que nous disons, que ce que nous faisons, que la vie que nous menons, l'objectif premier de cette vie, soit d'honorer Dieu et non pas notre propre personne. Et on a été très clair, sans vouloir jouer à l'autruche, sans vouloir se fermer les yeux sur les tares et sur le côté inadéquat de certains comportements qu'on peut rencontrer dans l'Église. Il arrive, oui, qu'il y a des gens qui travaillent dans l'Église et que ce n'est pas pour honorer Dieu. Il y a même des gens qui portent des titres dans l'Église et malheureusement, ce n'est pas pour honorer Dieu. Lorsqu'on regarde les noms même de Paul et de Démas, Paul voulait dire celui qui est simple, celui qui est petit. Démas voulait dire le gouverneur du peuple ou celui qui gouverne le peuple. C'est deux pensées totalement différentes. Celui qui est petit, celui qui est humble, celui qui est peu de choses, que qualifie le nom de Paul, et Démas, celui qui conduit le peuple, celui qui dirige le peuple, ou gouverneur du peuple. Certaines personnes veulent servir Dieu pour être en autorité, pour être au-dessus des autres. Certaines personnes veulent servir Dieu pour les récompenses qui viennent avec le service de Dieu. Certaines personnes veulent servir Dieu pour les bénédictions qui accompagnent le fait de servir Dieu. La grande question qu'on se posait hier, est-ce que ces raisons viennent avant mon désir d'honorer Dieu? Et c'est là où on a besoin de demander à Dieu de nous éclairer très, très, très profondément. La Bible nous dit qu'il est capable de séparer l'os de la moelle, qu'il puisse venir avec la lumière de son esprit, qu'il puisse venir trancher dans nos vies et éclairer ces secteurs de notre existence qu'on croit très pieux, ces façons de faire qu'on croit très honorables, très religieuses, mais qui finalement cachent un orgueil, une prétention et de mauvais objectifs. À écouter le pharisien dans le temple, on aurait pu dire « voici quelqu'un de grand, voici quelqu'un de religieux, voici quelqu'un de sanctifié ». Et ce qu'il disait n'était pas nécessairement faux. Il disait « voici, je jeûne X fois par semaine, je donne ma dîme sur tout ce que j'ai, je veille à ne pas pécher ». Et il avait tout à fait raison, il n'était pas en train de mentir. Là où il dupait les gens, et là où il se dupait lui-même, c'est que ce qu'il faisait n'était pas motivé par une passion de Dieu, mais par un orgueil spirituel. Lorsque nous honorons Dieu, nous veillons à nous abaisser, nous veillons à ce que toute la gloire, tout l'honneur revienne à Dieu. Très souvent, on entend les gens, malheureusement, qui disent une prophétie et après ça, qui disent « Hey, je vous l'avais dit. C'est toi qui nous l'avais dit ou c'était Dieu qui l'avait dit? Je vous l'ai annoncé depuis 2 ans. Je vous l'ai annoncé depuis 15 ans. Est-ce que c'est Dieu qui l'annonçait ou c'était toi qui l'annonçais? Qu'est-ce qui était important? Que Dieu l'ait dit ou que Dieu soit passé par toi pour le dire? Ça fait 15 ans que je prêche la chose. Est-ce que tu prêchais la parole? Est-ce que c'était Dieu qui parlait ou c'était toi qui enseignais? Quelles sont les attitudes du cœur? Et c'est là où être quelqu'un qui honore Dieu devient quelqu'un qui sait s'abaisser pour que toute la gloire, que tout l'honneur revienne à Dieu. À un tel point où on va se dire, même si ce n'est pas moi qui le fais, en autant que ce soit fait. Même si Dieu décidait d'utiliser quelqu'un d'autre, en autant que sa parfaite, seule et unique volonté s'accomplisse. Voilà pourquoi Paul, qui était le père spirituel de Timothée, pouvait dire en certaines occasions, c'est pas important que ce soit Pierre, que ce soit moi, que ce soit un autre, que ce soit Jean, que ce soit Marc, que ce soit Barnabas, que ce soit Silas. Peu importe qui c'est, en autant que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ne devenons pas des empereurs sur notre petit empire que nous prétendons être le royaume de Dieu. Ne devenons pas de petits roitelets sur un petit royaume qu'on prétend être le royaume de Dieu, mais qui foncièrement ne cherche qu'à nous élever, à nous garder en poste et à nous placer au-dessus des autres. Timothée était quelqu'un qui, malgré toute chose, cherchait à honorer Dieu. Et nous devons être de même, chercher à honorer Dieu. Et là, soyons très prudents. Je ne suis pas en train d'excuser l'insoumission, la rébellion, l'indiscipline. Le corps de Christ est une armée, et dans une armée, il y a une hiérarchie. Alors, dans le royaume de Dieu, qui est l'armée de Dieu, il y a aussi une hiérarchie. Il y a des gens qui sont des conducteurs et il y a des gens qui sont conduits. Et nous devons respecter le degré d'appel, le degré d'onction, le degré de mandat qui est accordé à chacun. Non pas qu'un mérite plus que l'autre, mais un est appelé à des choses différentes d'autres. Certains sont appelés à être sur l'avant-poste, certains sont appelés à être des conducteurs et certains sont appelés à être des exécutants. Et il n'y a pas de gloire dans l'un et d'être méprisable dans l'autre. Non, c'est tout simplement être là où Dieu nous appelle en faisant ce que Dieu nous appelle à faire. Aujourd'hui, on voit deux autres personnages. On voit Luc et on voit Marc. Au verset 11 que je lis pour vous. « Luc est avec moi, prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Alors Paul va dire à Timothée, qui l'a invité à être près de lui, « Voilà, autour de moi, il y a Luc, et je te demande d'amener aussi Marc avec toi, lorsque tu te dirigeras vers moi, parce qu'il m'est utile pour le ministère. » Luc, en grec, c'est Loukas, L-O-U-K-A-S. Donc, quelqu'un qui s'appelle Lucas en français aujourd'hui, c'est la même chose que Luc. Et Marc, en grec, c'est Marcos, M-A-R-K-O-S. Donc, Luc, Lucas, L-O-U-K-A-S en grec, Marc, Marcos, M-A-R-K-O-S. Et avec ces deux noms, encore aujourd'hui, deux aspects importants. De notre personnalité ou de ce qui devrait être notre personnalité en tant que serviteur de Dieu. Qui est Luc tout d'abord? Luc est un chrétien d'origine païenne. Donc Luc n'était pas un juif en soi, mais c'était un païen converti à la foi chrétienne. Dans l'époque de l'Église primitive, il y avait deux groupes. Il y avait donc les juifs qui se convertissaient à la foi chrétienne, qui disaient Christ est effectivement le Messie et qui le reconnaissait comme fils de Dieu et comme Seigneur des Seigneurs. Et il y avait les païens qui venaient d'autres fois, qui venaient d'autres croyances, de religions impies et qui se tournaient vers Christ en reconnaissant que Christ était effectivement Dieu fait homme, qu'il était Dieu et qu'il était Seigneur et seule source de salut. Donc Luc un serviteur auprès de Paul va être effectivement un gentil ou un païen. C'est le même terme qu'on utilise aléatoirement dans la parole de Dieu pour ce type de personne. Donc Luc, comme vous et moi, qui n'êtes pas juif, était donc un païen converti à la foi et qui va être un compagnon de Paul dans la prédication de l'Évangile et dans ses nombreux voyages. À la fois, Luc était aussi un médecin. Et pour ceux qui se demandent, est-ce qu'on parle du même Luc qui a écrit le livre de Luc ou l'Évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres, c'est effectivement le même Luc. En fait, les deux personnages que nous lisons aujourd'hui vont être les évangélistes Luc et Marc qu'on a avec l'Évangile de Luc et avec l'Évangile de Marc. Donc Luc, chrétien d'origine païenne, compagnon de Paul. Ce qui est fantastique ici, c'est que ça nous prouve qu'on ne doit pas faire partie d'une élite pour pouvoir servir Dieu. On n'est pas obligé de faire partie d'une famille noble pour servir Dieu. On n'est pas obligé d'être fils de pasteur pour servir Dieu. On n'est pas obligé d'être fille de pasteur pour servir Dieu. On n'est pas obligé d'être membre d'une famille pastorale pour être appelé au ministère. On n'est pas obligé d'être là de génération en génération et d'être un descendant d'une certaine génération ou d'une certaine famille pour pouvoir aspirer au service de Dieu. On aspire au service de Dieu parce que Dieu nous appelle à son service, qui que nous soyons, d'où que nous venions, quel que soit notre arrière-plan. Donc ici, merveilleux d'apprendre que Luc, qui n'était pas juif, a servi à titre d'ancien, à titre de proche collaborateur de Paul, bien qu'il n'était pas juif d'origine. Lucas, Luc, veut dire, en français contemporain, celui qui apporte la lumière, celui qui éclaire. Qu'est-ce que fait la lumière? La lumière dissipe les ténèbres. La lumière dissipe la pénombre. Lorsqu'on est en plein milieu de la nuit, on allume la lumière. En allumant, les ténèbres se dissipent de façon instantanée. Et Luc avait ce mandat. Et nous avons ce mandat, d'être des personnes qui dissipent les ténèbres, après nous être assurés que ce que nous voulons faire, que ce que nous faisons, à l'instar du nom de Timothée, soit pour honorer Dieu, sachons maintenant dissiper les ténèbres, sachons faire reculer les ténèbres, que ce soit en faisant avancer le royaume de Dieu, ou que ce soit en éclairant concernant le royaume de Dieu. Alors, deux objectifs dans le fait de dissiper les ténèbres. Faire reculer les œuvres du diable et éclairer sur le royaume de Dieu. Comment faire reculer les œuvres du diable? En annonçant effectivement ce qui est considéré comme péché par Dieu. En annonçant effectivement le statut propre à tout humain qui naît, statut de pécheur. Et en faisant reculer les mensonges du diable. Et à travers ces dernières semaines, on a pu effectivement en illustrer certains. On a parlé tout d'abord du purgatoire, il y a quelques semaines, où on s'est dit, mais voilà une doctrine de démon. Pourquoi? Parce que ça laisse croire qu'il est possible pour quelqu'un qui n'aurait pas mené la vie qu'il devait mener, qui n'aurait pas tourné sa vie vers la repentance, vers la confession de ses péchés et vers la seigneurie de Jésus sur sa vie, de pouvoir se réchapper une fois passé dans l'éternité. Il n'y a rien dans la Bible qui suggère l'existence d'un purgatoire. Il n'y a aucune doctrine biblique qui annonce le purgatoire. En fait, on nous dit qu'après cette mort physique vient la mort spirituelle. Ça veut donc dire qu'une fois que je suis mort physiquement ici, je fais face à une condamnation à mort pour l'éternité. Il n'y a pas de moyen de se réchapper de l'autre côté. Et ça, c'est une doctrine de démon. Pourquoi? Parce que ça permet à certaines personnes de se dire « j'ai encore le temps ». Je vais profiter de ma vie comme j'ai envie d'en profiter ici-bas. Je vais faire toutes les infamies que j'ai envie de faire ici-bas. Je ne vais pas me repentir de ce côté-ci de l'éternité parce qu'une fois que je serai mort, j'aurai encore l'occasion de me reprendre. C'est un mensonge du diable qui a dupé des générations et des générations et qui font en sorte que certaines personnes se sont... amenés dans un chemin qui mène à l'enfer sous prétexte de cette fausse doctrine démoniaque qu'était le purgatoire. Le salut, on y accède de ce côté-ci de l'éternité, de notre vivant. La repentance s'affiche, la repentance se manifeste de ce côté-ci de l'éternité. Le pardon des péchés s'y accède de ce côté-ci de l'éternité et non pas une fois la mort physique manifestée. Chez les protestants, on a tout aussi pire. On a cette doctrine qui laisse croire que certains sont créés pour le salut et d'autres sont créés pour l'enfer. Une doctrine de démon tout autant. Pourquoi? Parce que ça excuse la paresse des chrétiens. Ça excuse le fait de ne pas être des gens qui propagent la lumière. Pourquoi? Parce que je peux me taire de toute manière. Celui qui doit être sauvé sera malgré tout sauvé. Celui qui doit être sauvé sera en bout de ligne sauvé, que je parle ou que je ne parle pas. Bien sûr, les tenants de cette doctrine vont dire « mais tu ne sais pas qui doit être sauvé et qui sera sauvé, alors à toi de parler. » Mais de toute manière, même si tu ne parles pas, la chose va s'accomplir selon cette doctrine. Donc on a toute une génération de croyants qui deviennent des politiciens, qui deviennent des débatteurs théologiques, mais qui oublient d'avoir ce désir profond qui passe à côté de ce tremblement de cœur profond à l'idée que si je me tais à cause de mon silence, quelqu'un peut passer dans l'éternité sans rencontrer Jésus. Paul va dire, insiste en toute occasion, favorable ou non. Pourquoi? Parce qu'il sait que toute personne autour de lui est confrontée à l'éternité, au salut ou à l'enfer. Paul va dire, je me suis fait tout à tous, enfin, afin d'en gagner au moins quelques-uns. Ça veut dire que Paul en a gagné quelques-uns et que s'il ne s'était pas fait tout à tous, il n'aurait pas gagné ces quelques-uns. Alors ne sombrons pas dans ce mensonge du diable qui viendrait excuser la paresse de nombreux chrétiens qui ne font pas leur travail d'éclaireurs, qui ne font pas leur travail de Lucas, qui ne font pas leur travail d'apporter la lumière sous prétexte que de toute manière, celui qui doit être sauvé sera sauvé. Si tu ne fais pas ton travail, tu n'as pas la couronne qui vient avec ton travail. Si tu ne répands pas la lumière, tu n'as pas la couronne qui vient avec le fait de répandre la lumière. Peux-tu donc te présenter devant Dieu en toute quiétude en disant « Hey Seigneur, je t'ai suivi et j'ai été chrétien toute ma vie. Je n'ai pas publié la lumière, je n'ai pas annoncé la lumière, je n'ai pas annoncé le salut à travers la mort et la résurrection de Jésus. Je n'ai pas poussé le message de l'Évangile au travail, à l'école, dans mon voisinage. Je n'ai pas parlé à mes proches, à ma famille, à mes voisins, à mes amis de Christ, mais j'étais chrétien. » Peux-tu te destiner à l'éternité dans la présence de Christ en n'étant pas celui qui propage la lumière. Ça serait honteux de passer dans l'éternité et de dire, moi je me suis tué parce que de toute manière, tu allais sauver qui tu allais sauver. J'ai pas fait l'effort supplémentaire parce que de toute manière, tu allais sauver qui tu voulais sauver, qui tu avais créé pour être sauvé. À nous d'être des porteurs de lumière comme Luc l'était et à dissiper les ténèbres. De surcroît à cela, Marc, Jean-Marc en fait, on va le distancier, on va l'appeler Marc parce qu'il y avait déjà un Jean dans l'Église. Il y avait déjà un Jean dans l'Église primitive et dans les leaders de l'Église primitive. Alors pour ne pas le confondre, on l'a appelé Jean-Marc. Jean-Marc est effectivement l'auteur lui aussi de l'Évangile de Marc. Ce qui est intéressant à voir, c'est que Paul, qui a écrit le trois quarts sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, bien entendu, le trois quarts du message du Nouveau Testament, a su répandre cette onction aussi, a su faire ce transfert spirituel que Marc et Luc ont reçu et qui, eux aussi, ont été des auteurs pour le royaume de Dieu, des auteurs qui sont aujourd'hui des instruments entre les mains de Dieu, qui font que nous avons la parole de Dieu à travers Luc, l'évangile de Luc et le livre des Actes, et à travers Marc, l'évangile de Marc. Ce qui est intéressant avec Marc, c'est que il n'a pas été toujours glorieux. En fait, à un moment donné, Marc a été délaissé par Paul. Paul ne voulait plus rien savoir de lui. Pourquoi? Marc était le cousin de Barnabas, premier collaborateur de Paul, avec qui il est allé faire le premier voyage missionnaire de son histoire. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors Paul et Barnabas vont quitter l'église d'Antioche et vont aller faire le premier voyage missionnaire à l'extérieur d'Israël pour répandre l'évangile. Barnabas va avoir l'idée d'amener avec lui son jeune cousin, Marc, Jean-Marc. Mais à un moment donné, Jean-Marc va dire, « Non, non, moi je ne continue pas avec vous, je rentre à Jérusalem. » Et Paul, parlant de Jean-Marc, va utiliser les mêmes termes qu'il a utilisés concernant Démas dans ce chapitre de Timothée. Et il va dire que Jean-Marc a été un déserteur, qu'il les a abandonnés. Et lors du deuxième voyage, alors que Paul allait encore s'embarquer avec Barnabas, Barnabas a dit « On reprend Jean-Marc avec nous ». Et Paul a dit non, à un tel point que Barnabas est parti avec Jean-Marc d'un côté et que Paul est parti avec Silas de l'autre côté. La dissension a été assez forte, la raison étant la présence de Jean-Marc à leur côté. Et on aurait pu se dire, ben alors Paul devait vraiment avoir un problème avec Jean-Marc, assurément. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce Jean-Marc, qui était un déserteur, rendu ici alors que Paul est dans ses derniers jours à Rome, condamné à mort, Paul va dire « Amen, Marc, car il m'est utile pour l'œuvre de l'Évangile. Amen, Marc, car il m'est utile pour le ministère. » Ça veut donc dire que Marc avait eu l'occasion de se reprendre. Marc, le déserteur, avait eu l'occasion de réintégrer les rangs de l'armée de Dieu, les rangs des serviteurs de Dieu, à un tel point, avec tant d'authenticité, avec tant de repentance, que Paul disait, Jean-Marc m'est utile pour le ministère. Mon ministère bénéficie de la présence de Jean-Marc. Mieux encore, Jean-Marc, qui va être catalogué comme un déserteur lors de son départ du premier voyage. Ici, si on s'arrête à l'étymologie du terme Marc, Marc veut dire celui qui protège. Un déserteur, foncièrement, c'est quoi? C'est un militaire qui doit être à son poste pour protéger la société civile et qui capitule, qui abandonne et qui quitte. Un déserteur, c'est quelqu'un qui doit collaborer avec ses frères d'armes pour l'avancée de son bataillon, de son groupe de frères d'armes, et qui les largue et qui les laisse à eux-mêmes, laissant une brèche, un trou, un vide par lequel l'ennemi pourrait attaquer. Jean-Marc, lorsqu'il était déserteur, n'était plus un protecteur. Mais Jean-Marc, qui revient à son poste, réintègre son poste de protecteur. Dieu peut te rétablir, Dieu peut te ramener si tu fais preuve de repentance, si tu fais preuve d'humilité et si tu acceptes d'apprendre. Jean-Marc, dans son premier périple, n'a pas fait le travail qu'il devait faire. Mais maintenant, alors que Paul était dans ses derniers jours et il disait « J'ai besoin de Marc à mes côtés, il m'est utile pour le ministère. » Marc allait être celui peut-être un peu comme Élisée auprès d'Élie. On nous dit qu'Élisée lavait les mains d'Élie. Peut-être que tu n'as pas encore compris l'importance que tu revêts auprès de ton pasteur. L'importance que tu es supposé revêtir auprès du collège pastoral de ton église. En tant que protecteur pour ce collège, en tant que protecteur pour cet homme de Dieu. Peut-être que tu n'as pas compris qu'en désertant, tu laisses une brèche dans le mur. Et Dieu dit, je cherche un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi. Mais je n'en trouve point. Lorsque nous quittons pour déserter, nous laissons un vide dans le mur. Une brèche par laquelle l'ennemi peut s'infiltrer et par laquelle l'ennemi peut attaquer et faire des torts. Mon frère, ma sœur, lorsque tu ne remplis pas l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé, tu ne protèges pas le royaume pour lequel tu as été établi. Lorsque tu cherches ta propre personne, lorsque tu cherches ta propre gloire, tu n'es plus en train de faire ce que Dieu t'avait appelé à faire. Ce matin, que l'histoire de Luc, que l'histoire de Marc nous parle. Luc qui n'était pas dans la famille idéale, Luc qui n'était pas dans la lignée généalogique parfaite pour servir le roi, un païen converti que Dieu va utiliser comme un des auteurs des évangiles. Marc, un juif déserteur, un juif converti qui va déserter l'Église et qui, malgré tout, lors de la fin de la carrière de Paul, va être déclaré comme étant utile pour le ministère. Quelqu'un qui a abandonné son poste, qui a rétrogradé, mais qui, à cause de la repentance, a repris éventuellement la position qui était sienne. Alors que tu sois aujourd'hui quelqu'un qui arrive de l'extérieur, que tu sois aujourd'hui quelqu'un qui était là et qui est parti et qui est revenu, tu as un mandat à accomplir. Amener la lumière et faire ton travail afin de protéger l'œuvre de Dieu. Prions. Seigneur, quel enseignement merveilleux tu nous donnes à travers ces différentes personnes que tu avais placées dans la vie de Paul. Merci pour ces hommes ces femmes, puisqu'il y aura Claudia cette semaine qu'on va mentionner, que tu avais placées autour de Paul et qui étaient là comme source d'encouragement, comme support et soutien pour Paul. Seigneur, nous prions que tu nous donnes aussi de telles personnes autour de nous, mais plus encore, que tu fasses de nous de tels hommes, de telles femmes, qui laissent de côté leurs propres intérêts, qui laissent de côté leur propre quête personnelle de reconnaissance, afin d'être simplement les serviteurs que tu désires qu'ils soient, positionnés là où tu les veux, faisant ce à quoi tu les as appelés, dans l'humilité, dans la repentance, dans la fidélité, dans la soumission. Père, parle-nous, instruis-nous. Permets, Seigneur, que les ténèbres se dissipent de notre vie et que ta lumière se propage. Nous prions, Seigneur, d'être des instruments qui amènent la lumière dans cette génération-ci qui en a tant besoin. Et nous prions, Seigneur, d'être aussi des protecteurs de ton œuvre. Non pas des instruments qui provoquent des divisions, non pas des instruments qui provoquent des dissidences, non pas des instruments qui provoquent des conflits à l'interne, mais des hommes, des femmes qui protègent l'intégralité de l'œuvre de Dieu et du royaume de Dieu. Que nous puissions être déclarés utiles au ministère, comme Marc l'était, malgré ses premiers faux pas. Nous t'avons prié en toute humilité, sachant que nous ne sommes pas ce que nous devons être encore, que nous tendons à la stature parfaite de Christ, du moins si effectivement nous y tendons. Je prie que ma sœur, mon frère, soit ébranlée par la parole de ce matin, soit éclairée par cette même parole et soit poussée dans la rectitude de ce que tu demandes, de ce que tu désires, de ce que tu cherches comme serviteur et servante. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve ce soir à l'église pour l'étude biblique. C'est le pasteur André qui va apporter la parole ce soir. Donc on vous invite à être là. Il est en train d'élaborer sur le livre de Jonas, source d'instruction, source d'enrichissement pour nous tous. Donc ce soir, 19h à l'église, ça sera aussi diffusé. Mais ça, on le fait un peu moins, on le mentionne un peu moins parce que vous le savez, ça sera diffusé sur Internet, bien entendu. Et on vous rappelle que dimanche matin, on célèbre la Sainte Cène pour clore notre assemblée de dimanche matin, directement sur place, en présentiel, et on vous invite à y être. Sur ce, que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous.